Bonjour cher Emmanuel et bonjour à vous qui nous écoutez et aux autres qui ne vont pas tarder. Je vous emmène sur scène aujourd'hui, sur une scène de théâtre où nous allons passer ensemble une petite heure. Pour commencer, rendons-nous à la scène 5 du premier acte d'Hamlet de William Shakespeare. Le spectre du roi, père d'Hamlet, mort avant le début de la pièce, vient rendre visite à Hamlet et lui annonce le nom de son assassin et l'invite à le venger. À son ami Horatio, qui ne veut rien entendre, Hamlet lance « Il y a sur terre et dans les cieux, Horatio, plus de choses que toute ta philosophie peut en rêver. »
Dans cette réplique, Hamlet évoque, ou invoque, une réalité qui excède les limites de la représentation. Celle des puissances insaisissables qui gouvernent son monde et qui lui ont envoyé un spectre dont les révélations l'ont bouleversé. Hamlet est un visionnaire. Il ne se contente pas de la réalité qui lui est immédiatement donnée, mais a besoin de voir plus loin, d'envisager d'autres possibilités, surtout celles qui sont cachées. Ces possibilités latentes sont aussi susceptibles de l'égarer, de le laisser littéralement interdit. Elles sont virtuelles et peut-être trompeuses. C'est pourtant là qu'il situe la réalité la plus brûlante, celle qui a le plus de signification et de conséquences.
Moi.
Bonjour Mathieu Messer.
Bonjour Adèle Vendrette.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie.
Merci de m'accueillir.
Mais c'est un grand plaisir de vous recevoir pour parler de votre livre qui s'intitule « L'autre scène, philosophie du théâtre » paru aux éditions Vrin. Vous y défendez une thèse original que j'ai plaisir à donner à entendre aujourd'hui. Johnny Hallyday le chantait à la suite de l'extrait de votre livre que vous avez lu et de la petite citation que j'ai donnée. On est à la scène 5 du premier acte d'Hamlet, donc de Shakespeare. Le spectre vient rendre visite à Hamlet et dans cette scène où finalement des choses se disent qui ne sont pas toutes audibles et toutes visibles, se joue pour vous ce qu'il y a d'essentiel dans le théâtre, à savoir que tout ne se passe pas forcément devant nos yeux.
Oui, d'abord, je suis ravi d'entendre ce raccourci radiophonique entre Hamlet et Johnny Hallyday, ce qui montre à quel point cette pièce est restée actuelle, en particulier cette scène du spectre. Alors, Hamlet, pour Shakespeare, c'est vraiment une pièce centrale, parce que c'est non seulement une de ses grandes pièces de théâtre, mais c'est aussi une pièce sur le théâtre, sur pourquoi on fait du théâtre et pourquoi Hamlet a besoin du théâtre et pour montrer une vérité qui, justement, échappe à la réalité quotidienne, à la réalité de la cour dans laquelle il vit. Et le spectre, la rencontre avec le spectre de son père au début de la pièce, incarne cette vérité cachée, cette vérité à laquelle on ne peut pas croire. Et pendant tout un temps, Hamlet n'est pas sûr que ce spectre est vraiment celui de son père. Au fond, il n'en sera jamais sûr. Mais il va quand même suivre l'injonction, plus que l'invitation, vraiment l'impératif que lui adresse ce spectre pour venger le crime de son oncle, qui est devenu roi à la place du père d'Hamlet, et pour rétablir une forme de justice, et surtout pour faire éclater cette vérité qui n'est pas accessible dans la réalité de tous les jours ou la réalité quotidienne. Hamlet, c'est quelqu'un qui veut faire éclater la vérité, qui veut la faire éclater sur scène, et pour ça, il a besoin du théâtre. C'est un personnage théâtral par excellence. Et donc l'autre scène, moi ce que j'appelle l'autre scène, c'est cette réalité brûlante, pleine de sens, de signification. Je disais tout à l'heure, en lisant le début de mon livre, de possibilités, ce sont toujours des possibilités. Cette vérité-là reste cachée, et le rôle du théâtre, c'est de la faire éclater sur cet espace privilégié de la scène. Alors, dans Hamlet, ça peut pas se faire directement. C'est ça qui est intéressant et beau et angoissant à la fois. On peut pas montrer le crime directement. On peut pas montrer le réel directement. Il est trop coupable, il est trop difficile. Donc, ce que va faire Hamlet dans la pièce, c'est le montrer sur une scène, avec ce fameux moment de théâtre dans le théâtre où il montre le crime devant la cour. Il le met en scène lui-même, donc c'est un comédien de théâtre qui met en scène une pièce. Et cette scène sur la scène représente pour moi quelque chose d'analogue à ce que j'appelle l'autre scène, cette scène du réel qu'on n'arrive pas à atteindre, qui est toujours un petit peu cachée, toujours à l'horizon de nos désirs, de nos angoisses, que le théâtre peut rarement montrer directement, mais que quand même le théâtre est seul à pouvoir montrer.
Ça veut dire que le théâtre, d'une certaine façon, serait plus réel que ce qu'on tient pour réel.
Voilà, c'est exactement ça. L'idée, c'est que l'autre scène, ce serait cette réalité brûlante, cachée, enfin chargée de potentialités aussi, de désirs, de fantasmes, d'angoisses. Une réalité qui est aussi psychologique, peut-être, qui n'est pas directement matérielle, qu'on a besoin de, en même temps, de sentir, d'incarner, de toucher, mais on ne peut pas le faire la plupart du temps. La plupart du temps, la réalité est décevante, déceptive, elle nous égare, elle nous trompe, et puis elle n'est pas cohérente. Tandis qu'au théâtre, il y a cette pulsion d'atteindre une autre scène, une scène plus réelle où il se passerait les vraies choses en quelque sorte, où se réaliseraient les vrais désirs, où une véritable vengeance serait possible, où les angoisses fondamentales de l'homme se réaliseraient, comme dans Oedipe par exemple. Et voilà ce que j'ai essayé dans ce livre d'appeler l'autre scène, en y voyant cette scène un petit peu fantasmatique qui est à l'horizon du théâtre et qui se confondrait avec la scène du réel.
En tout cas, c'est un livre qui est très agréable à lire, qui se lit avec beaucoup de plaisir et encore une fois qui soutient des thèses originales qui sont toujours les bienvenues parce que finalement peut-être peu d'ouvrages de philosophie sont consacrés au théâtre en tant que tel. Vous enseignez en classe préparatoire commerciale au lycée Alfred Kastler et de Sergi Pontoise à Sciences Po Paris. Est-ce que c'est pendant vos cours que vous avez eu l'idée de réfléchir sur le théâtre? Parce qu'il y a quand même une mise en abîme là.
Alors...
Ou est-ce que c'est une passion précédente, l'enseignement?
Alors, les deux. Enfin, d'abord, ouais. Ça a été une passion précédente, puisque j'ai été longtemps comédien dans une troupe qui s'appelait le Tiers Théâtre et qui s'était formée avec des amis étudiants, et puis qui après a eu un long destin. Et donc, il y avait ce passé théâtral. Et puis, par des rencontres, j'ai été amené, dans le cadre de mon métier de philosophe, à travailler sur le théâtre, à faire un petit peu des recherches philosophiques sur le théâtre. Les deux choses se marient, à mon avis, très bien. Et c'est vrai qu'après coup, dans le cadre des cours, c'est un instrument pédagogique qui est absolument merveilleux, parce que l'avantage du théâtre, bon, on pourrait dire ça de l'art en général, de la peinture ou d'autres formes d'art en tout cas, mais l'avantage du théâtre, c'est que ça permet de présenter des idées très abstraites, apparemment très abstraites, la justice, le bien, le mal, etc., dans des situations très concrètes, toujours très matérielles. C'est ça qui m'intéresse aussi avec l'idée d'une scène du réel, c'est que par réel, j'entends à la fois les idées les plus essentielles, les idées au sens de vraiment de Platon, et en même temps, la réalité la plus matérielle, le théâtre qui part toujours des tripes. Alors, je veux pas rester tout le temps sur Shakespeare, mais
c'est vraiment,
il mérite qu'on y reste un petit peu. Chez Shakespeare, c'est tout le temps ça, c'est les grandes idées, c'est les possibilités insaisissables, c'est ce qu'il y a après la mort, c'est le pouvoir. Et en même temps, c'est toujours revenir à la trivialité du corps, à ce que le corps a de plus matériel, de plus vulgaire, la sexualité, les besoins, le fait qu'on va être mangé par les vers. Et ça, c'est ce que montre le théâtre, cette rencontre, cette tension entre les essences ou les idées, mais toujours mise en crise en étant confronté à la réalité la plus matérielle.
Mais on pourrait se dire que c'est ce qui arrive aussi au cinéma, dans les séries. Il y a quelque chose de subversif aujourd'hui à écrire un livre sur le théâtre, comme y compris dans sa vertu pédagogique en enseignement de classe de philosophie, alors qu'aujourd'hui on parle beaucoup des séries justement ou des films qui viendraient illustrer des concepts. Ce que vous dites, c'est dans le théâtre, il y a quelque chose que le cinéma et que les séries n'ont pas, c'est le corps réel de l'acteur devant nous.
Voilà, ce qui n'est pas forcément, pour moi, mon intention avec ça, ça n'est pas de hiérarchiser les arts, mais plutôt de montrer ce que j'ai dit là vaut pour le cinéma, les séries évidemment aussi. La différence du théâtre, c'est effectivement la spécificité, disons, du théâtre. C'est la présence réelle du comédien. Apparemment, ça semblerait pas faire beaucoup de différence avec le cinéma. Le simple fait de rajouter la présence réelle. À la limite, ce serait source de beaucoup plus de contraintes qu'au cinéma, où on peut facilement changer de décor, où on peut faire des poursuites de voiture, où on peut mettre des effets spéciaux beaucoup plus facilement qu'au théâtre. Au théâtre, il y a une lourdeur, une contrainte d'espace, d'accessoires, de matérialité qui est extrême et qui semble le limiter. Et en même temps, justement, c'est ça qui fait l'effet de réalité, parce que ça participe de la puissance expressive du théâtre. Au théâtre, il y a ce dénuement, il y a cette fragilité, cette corruption, le fait que le spectacle puisse rater, qu'une réplique puisse être mal prononcée, et puis même dans la mise en scène des pièces ou dans l'écriture des pièces, cette possibilité de corruption est constamment présente. Et en fait, c'est ce qui fait la force expressive du théâtre. Le fait que les idées, les abstractions sont mises à l'épreuve de quelque chose d'extrêmement concret et qui peut les faire échouer, ou qui peut les subvertir, ou qui peut les corrompre. Antonin Artaud avait une expression très forte pour dire ça. Il a eu plusieurs expressions très fortes.
Qui est l'auteur du théâtre de la cruauté, notamment.
Le théâtre de la cruauté, et son grand livre, c'est le théâtre et son double, où il théorise tout ce qu'il faisait dans le cadre du théâtre de la cruauté. Et il parlait à cet égard d'un carnage d'essence. Le théâtre, c'est ce qui fait un carnage d'essence. On prend des essences, on prend des grandes idées, la justice, l'honneur, l'amour peut-être, enfin, que sais-je, et on les fait rentrer en crise. Et ce qui les fait rentrer en crise, c'est la matérialité des situations, la matérialité des conflits dramatiques, la matérialité de tout ce qui, sur une scène de théâtre, peut venir corrompre la réalité ou les idées à tout instant. Et ce que disait Antonin Artaud à cet égard, c'est que le propre du théâtre, c'est de libérer des possibilités. Il ne s'occupe pas directement d'essence ou... Il ne veut pas viser des essences stables, il veut libérer des possibilités. Il veut faire s'entrechoquer les choses pour les rendre imprévisibles et toujours nouvelles, en fait. Et c'est ça la cruauté dont il avait fait son cheval de bataille.
Alors, sans cruauté aucune, on va mettre à l'épreuve ce que vous dites, vous prendre au pied de la lettre. Comment est-ce qu'un discours d'idées, donc abstrait, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par le corps, peut-il s'incarner physiquement dans le corps de l'acteur sur scène ? Prenons la tirade la plus célèbre de Shakespeare, à propos de laquelle ont été écrits des livres entiers de philosophie, et voyons comment elle s'incarne dans le corps ici de Jean-Louis Barrault.
Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune, ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleur ? Mourir, dormir, c'est tout. Calmer enfin, dit-on, dans le sommeil, ces affreux battements du cœur. Quelle conclusion des mots héréditaires serait plus dévotement souhaitée ? Mourir, dormir, rêver, peut-être. Aïe, voilà lui. Car échappé des liens charnels, si dans ce sommeil du trépas, il nous vient des songes. Halte là. Cette considération prolonge la calamité de la vie. Car sinon, qui supporterait du sort les soufflets et les avanies, les torts de l'oppresseur, l'outrage de l'orgueilleux, les affres de l'amour dédaigné, les remises de la justice, l'insolence des gens officiels, les rebuffades que les méritants rencontrent auprès des indignes, alors qu'un petit coup de pointe viendrait à bout de tout cela? Qui donc assumerait ses charges, accepterait de geindre et de suer sous le fait écrasant de la vie, s'il n'y avait cette crainte de quelque chose après la mort. Mystérieuse contrée d'où nul voyageur ne revient. Voilà l'énigme qui nous engage à supporter les maux présents plutôt que de nous en échapper vers ces autres dont nous ne connaissons rien.
To be or not to be, la célèbre tirade d'Hamlet. De Shakespeare, vous l'écoutez sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons de philosophie du théâtre aujourd'hui en compagnie du philosophe Mathieu Aumesser. Alors dites-nous comment ces phrases, qui sont des vers, dont on ne se lasse jamais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les écoute, on les entend différemment, ça dure 1 minute 46 très exactement dans le cas de l'extrait qu'on vient d'entendre, et il se passe tellement de choses au cours de ces presque 2 minutes, qu'est-ce que ça change de les entendre, et non pas de les lire, et a fortiori de les voir sur scène, ces mots-là incarnés?
Très bonne question. Alors, en fait, oui, le propre des grandes répliques shakespeariennes, comme ça, c'est non seulement d'être très célèbres, mais elles ne sont pas très célèbres pour rien.
C'est ça, oui.
C'est d'offrir un sens extrêmement condensé. Ce qui fait que pour le comédien, c'est une capacité de redécouverte constante. C'est-à-dire que la réplique guide il y a un raisonnement dans cette réplique. Ça part de la possibilité du suicide, et la question que ça pose, c'est pourquoi on ne se suicide pas, surtout quand on souffre, alors que ce serait... si facile. Qu'est-ce qui nous retient exactement ? Et là, il fait le parcours de raisonnement, de savoir exactement ce qui nous retient. Alors, ce qu'apporte le fait que cette réplique soit dite, soit faite pour être dite, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est la matérialité. Parce qu'au fond, cette réplique parle de ça. Elle parle d'abord de la possibilité du suicide. To be or not to be, c'est continuer à vivre ou arrêter de vivre. Mais en fait, cette réplique a beaucoup plus de sens que ça pour Shakespeare. To be or not to be, c'est finalement la caractéristique de la matière, du corps, la contingence de l'existence matérielle. Dans l'existence matérielle, il y a ce qui est, ce qui existe, ce qui semble concret. Et puis, le propre de la matière, ça c'est Aristote qui le disait, c'est toujours de pouvoir être autrement qu'elle n'est. C'est de pouvoir changer, c'est de pouvoir mourir. c'est de pouvoir changer de forme. Et la matière, c'est des possibilités. Et les possibilités, par définition, elles sont, et comme elles sont simplement possibles, elles ne sont pas. Elles sont entre to be et not to be. Et c'est ce que montre le théâtre pour Shakespeare. Mais c'est ce qu'il montre toujours à partir de la matière. La matière, c'est le point d'ancrage du réel, mais un point d'ancrage qui est toujours contingent, qui peut être autrement qu'il n'est, qui peut changer, qui a des apparences diverses, qui parfois peut prendre la forme d'un spectre qui apparaît sur scène. Alors, c'est ça, le spectre.
Donc, le spectre d'Hamlet, c'est l'image du théâtre, en fait, non?
C'est une image du théâtre, effectivement, oui. Et à bien des égards. Et on peut se poser la question, c'est la première question qu'Hamlet se pose, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Et s'il existe, qui est-il vraiment? Est-ce que c'est mon père ou est-ce que ce n'est pas mon père? C'est to be or not to be, à tout instant, cette réplique. Et alors, ce que change le fait que cette réplique soit jouée, c'est déjà simplement le fait de savoir qu'est-ce qui motive ce moment-là. Dans quel état émotionnel arrive Hamlet? C'est le tout début de la scène. Quand il arrive sur scène et il dit « to be or not to be ». J'avais vu une très bonne mise en scène qui a eu du succès à la Comédie Française il y a quelques années de Dan Gemet, où Hamlet lisait cette réplique, il la tirait pas de son propre fond, il la lisait sur le mur des toilettes, comme un graffiti. Et il disait « to be or not to be ». Donc, ce qui montre encore une fois la trivialité dont est capable Shakespeare et qui lui est tout à fait fidèle. To be or not to be, il dit ça sur le mur des toilettes et il conclut grave, oui, telle est la question. Et là, on voit ce que c'est les possibilités du jeu. Et ça, c'est tout à fait shakespearien. Tout est possible sur scène à partir de la matérialité des situations à laquelle on peut toujours donner un éclairage différent ou une signification différente. Et c'est pour ça que cette réplique est devenue culte, à mon avis, et apparemment simple, apparemment philosophique. C'est le partage philosophique fondamental, l'être, le néant.
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Effectivement, mais ce qui intéresse Shakespeare, c'est pas to be or not to be, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et alors, l'aboutissement de cette réplique, qui est fascinante.
Ce qu'il y a entre les deux, c'est quoi? C'est l'hésitation, la nuance?
C'est ce qu'il dit de la mort. La mort, ce serait le néant. Mais il dit un moment, c'est là qu'elle... problème. Enfin, je me rappelle plus exactement comment c'était formulé là dans l'extrait que dans la traduction.
Les traductions sont tellement multiples.
Entendu, mais il dit là, il y a un os. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et ce qu'il dit à ce moment-là, c'est après la mort, finalement, il y a peut-être pas rien. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être une éternité de souffrance. Il y a peut-être encore le corps. Et finalement, c'est ça qui est très présent dans Hamlet, la scène du cimetière et toute la réflexion sur le cadavre. Après la mort, la seule chose qui reste, et il y a une chose qui reste, c'est le cadavre mangé par les vers, et on se projette là-dedans, et c'est ça qu'on voit après la mort. Donc, pour Shakespeare, il y a la possibilité qu'après la mort, il y a encore quelque chose, des possibilités qu'on voit pas, des possibilités terrifiantes. Les personnages de Shakespeare n'arrêtent pas de faire des rêves là-dessus, sur ce qui les attend après la mort, et ce qui m'intéresse, c'est que ces possibilités post-mortem, c'est toujours des possibilités matérielles. Ce qui reste après la mort, ce sera le corps. Et on continuera à ressentir des choses matériellement. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais l'au-delà de Shakespeare est un au-delà matériel. Et c'est ça qui nous survit, c'est le corps. Et à ce moment-là, c'est là qu'apparaissent des possibilités, les possibilités terrifiantes. Celles dont le père d'Hamlet parle, d'ailleurs, en apparaissant, il dit à son fils, ou à ce qu'on imaginait de son fils, il lui dit « Si tu savais ce qui se passe en enfer, tes cheveux se dresseraient sur ta tête, tes yeux sortiraient de leurs orbites, mais je ne peux pas en parler. » Ça, il incarne à ce moment-là toutes ces possibilités, ce réel brûlant, au propre et au figuré, que Hamlet ne peut qu'envisager, ces possibilités qui dépassent toute philosophie, mais qu'on ressent matériellement.
De même que le spectre défie toute forme d'incarnation. Comment on fait apparaître sur scène, au théâtre, un spectre?
Alors ça, c'est la profonde ironie de Shakespeare. Et Shakespeare adore jouer avec ça. Il y a de nombreux textes, de nombreux metteurs en scène qui parlent de cette difficulté. Comment faire pour que le spectre soit convaincant? Et justement, c'est une réflexion chez Shakespeare, c'est une réflexion esthétique, c'est la question esthétique fondamentale. Comment faire entrevoir ce monde de possibilités fantasmatiques, angoissants, à partir des comédiens et de la scène? De pas grand-chose, finalement. Il dit ça aussi sur la question du pouvoir. Comment est-ce que je fais pour incarner de façon convaincante un roi? Il dit ça à propos de tous les éléments épiques. Comment est-ce que je fais pour matérialiser des batailles? Dans Henri V, par exemple, ou dans Richard III. Il dit ça à propos de la tempête. Au début de la tempête, il y a une tempête. Donc on voit un équipage de bateaux pris dans la tempête. Comment on fait exister ça sur une scène de théâtre? C'est hyper compliqué. C'est un défi esthétique de tous les instants. Et si Shakespeare le fait autant, c'est que pour lui, il y a une signification profonde là-dedans. C'est justement, c'est toujours à la matière qu'on en reviendra. Toujours au spectacle, toujours à la scène, toujours au corps du comédien. C'est toujours ça, c'est toujours à ce niveau-là finalement que se joue l'humanité. Mais on a besoin malgré tout, à ce niveau-là, d'incarner des possibilités qui vont plus loin. Et le spectre, il doit incarner ça. Donc après, il y a l'ingéniosité, de la mise en scène, l'ingéniosité du comédien, la force de son jeu d'évocation, la force du texte aussi, qui dépasse la matérialité immédiate pour évoquer des images, beaucoup d'images dans le texte de Shakespeare. Et c'est ça qui doit faire exister le spectre, c'est ça qui doit faire exister les batailles, c'est ça qui doit faire exister le pouvoir politique, l'illusion du pouvoir politique sur scène, mais avec l'idée que on reviendra toujours au corps du comédien.
Est-ce pour cette raison qu'un philosophe comme Platon tenait le théâtre comme étant extrêmement dangereux pour la cité, ce rapport au corps sur lequel vous insistez beaucoup, cette matérialité du théâtre? Platon est connu pour être ce philosophe qui, pour le coup, établit une hiérarchie très claire entre les idées et le corps. Et il y a le monde des idées où se trouve la vérité et le monde sensible dans lequel nous vivons, qui n'est qu'une pâle copie de ce monde-là et qui est un moindre être, qui est moins intéressant.
Oui, alors Platon, pour ce qui est de to be or not to be, lui, il choisissait le côté to be et il mettait la matière, l'existence matérielle, le monde sensible du côté presque, sinon du not to be, mais en tout cas de ce qui est le devenir et pas l'être. Donc avec un partage très net et qui a comme conséquence directe dans sa philosophie qu'effectivement il condamne le théâtre. Le théâtre, c'est l'art des apparences, c'est l'art plus que de l'apparence de l'illusion qu'on manipule, d'une illusion qui, en plus, n'est pas, comme l'illusion du peintre, une illusion extérieure, mais une illusion dans laquelle l'artiste rentre lui-même, en se transformant lui-même en quelque chose d'autre, en ce qu'il n'est pas. Et ça, pour Platon, c'est la chose la plus subversive qui soit, cette attitude du comédien mimétique, qui fait de la mimésis donc, qui se transforme en un être qu'il n'est pas, et qui peut se transformer en n'importe quoi. Alors, dans la République de Platon, il y a des passages entiers où il condamne cette tendance du théâtre, qui est en fait aussi un principe de jouissance, de plaisir, mais un plaisir extrêmement coupable et dangereux pour Platon. Et c'est ce qui l'amène à la thèse célèbre, au livre 10 de la République, où il propose purement et simplement de chasser les comédiens, les artistes mimétiques de la cité.
Mais c'est donc qu'il en a peur, c'est donc qu'il a mesuré la puissance du théâtre.
Il la mesure, et il la mesure vraiment comme une puissance concurrente à celle de la philosophie. Parce que ce qui le retient autant sur le théâtre, c'est que le théâtre prétend justement fournir une image globale du réel, une image globale des affaires humaines, prétend fournir une réflexion sur le bien et le mal, sur les affaires de la cité, sur la politique, ce que prétendait aussi faire Homère ou d'autres artistes, mais le théâtre prétend le faire, et y compris dans un contexte collectif, lors des grandes fêtes religieuses où les tragédies étaient jouées, où toute la cité était rassemblée, donc le théâtre avait une vraie fonction politique, ou en tout cas communautaire, qui pour Platon apparaissait comme une véritable concurrence. Et c'est ce qu'il met en scène dans plusieurs textes, hein, cette concurrence entre la prétention du philosophe à gérer les affaires de la cité et la prétention du théâtre à montrer les affaires de la cité aussi, mais sur le mode de l'illusion, sur le mode du fantasme, sur le mode de l'émotion excessive, du spectaculaire. Et ce qui a conduit à Platon, dans un texte célèbre, à parler de théatrocratie. Pour lui, la démocratie athénienne était gangrénée par la théatrocratie, c'est-à-dire le jugement du public toujours contradictoire, toujours changeant.
Alors là, on sort de la scène du théâtre. Ce que vous dites, que Platon dénonce, c'est la théâtralisation de notre vie sociale et de la vie démocratique.
Oui, mais qui pour lui se jouait de façon exemplaire au théâtre. Parce que le théâtre, c'est justement, il y a un rapport circulaire entre le théâtre et le public, c'est le théâtre se construit pour flatter le public. Il cherche l'émotion, il cherche les pires crimes, il cherche les pires choses, il cultive ce que Platon appelait les désirs paranomiques, c'est-à-dire les désirs contraires à toute loi. Et ces désirs paranomiques, il en donne deux exemples dans la République. Les désirs les plus contraires à toute loi, c'est tuer son père et coucher avec sa mère. Donc c'est les désirs d'Oedipe, ou les désirs inconscients, enfin les désirs que malgré lui, Oedipe a réalisés. Et c'est pas pour rien que Platon donne cet exemple. Pour lui, le théâtre, effectivement, montre une espèce d'autre scène ou de... Mais il montre la scène où se réaliseraient nos pires fantasmes, les fantasmes les plus instables. Et c'est ça qu'il condamne avec force. Mais en même temps, c'est vrai qu'il voit dans le théâtre une puissance concurrente de la philosophie. Et qui dit concurrence, dit une forme de voisinage quand même. Et c'est pas pour rien si Platon lui-même déjà a écrit des dialogues, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble fort à du théâtre, mais c'est un quasi-théâtre, c'est pas vraiment du théâtre. Et justement, c'était pas fait pour être mis en scène matériellement, c'était fait pour être lu.
Mais il y a indéniablement un art de la mise en scène dans les Platons.
Mais
dans
il y a une mise en scène, il y a une écriture, il y a un déroulement dramatique parfois, il y a des scènes, des morceaux de bravoure, il y a la mort de Socrate qui est une sorte de scène primitive ou fondatrice pour toute la philosophie de Platon et qui est indéniablement une scène théâtrale. Il y a une théâtralité des dialogues de Platon, mais une théâtralité qui est comme retenue, qui est comme virtuelle parce qu'elle reste sur le terrain de la rationalité. Et ce voisinage entre la philosophie de Platon et le théâtre apparaît aussi dans l'image qui est la plus connue dans la philosophie de Platon, c'est le fameux mythe de la caverne, avec ces prisonniers qui sont censés incarner notre condition humaine, qui sont dans le monde des apparences sensibles, avec cette caverne où ils regardent des ombres, avec derrière des montreurs de marionnettes qui projettent les ombres sur le fond de la caverne. Cette image est incontestablement une image de théâtre. Un théâtre d'ombre, un théâtre de marionnettes. On en trouverait d'autres, des images comme ça chez Platon. Pour lui, effectivement, notre monde sensible ressemble à un théâtre. Effectivement, le théâtre nous donne une sorte de vision globale de l'existence et du réel. Effectivement, on pourrait parler d'un théâtre du monde. Mais pour Platon, de ce théâtre du monde, il faut sortir. Il faut, par tous les moyens, sortir. Et c'est pour ça qu'il faut accepter de mourir, parce que la mort est peut-être la seule porte de sortie, hein, ce qui met en scène dans le Phédon avec la mort de Socrate, ou alors produire un théâtre qui ne serait pas vraiment du théâtre. Un théâtre où certes il y aurait des personnages, où certes ils défendraient leurs opinions, où certes il y aurait une forme de vie, mais un théâtre où les personnages seraient désincarnés. Un théâtre où les personnages n'existeraient pas vraiment. Un théâtre où Socrate ne serait plus le Socrate de chair et de sang que Platon avait connu en vrai, mais serait ce Socrate purement rationnel, ce Socrate mythique, ce Socrate héroïque que Platon reconstruit dans son théâtre virtuel.
Et donc sans corps, sans chair, sans matérialité.
Voilà, un Socrate qui ne se constituerait plus que dans l'ordre du dialogue et l'enchaînement des répliques alternées de la dialectique et du dialogue. Un Socrate qui, en quelque sorte, serait le personnage central de l'autre scène version Platon, c'est-à-dire une scène plus réelle que le réel, mais qui serait une scène philosophique et rationnelle.
Mais précisément, que rétorquez-vous à Platon, puisque justement vous tenez les deux bouts du philosophe et de l'homme de théâtre? Où Platon a-t-il tort dans ce qu'il défend? Parce que je sens que vous n'êtes pas complètement d'accord avec lui, puisque vous défendez une matérialité du théâtre et une réalité propre au théâtre.
La vision que Platon a du théâtre et de la philosophie, puisque vraiment les deux vont ensemble chez lui, est extrêmement séduisante, extrêmement cohérente. Jusque dans le fait d'aller flirter en quelque sorte avec le théâtre, c'est plus qu'un flirt, c'est une liaison constante dans les dialogues, mais il y a toujours un point d'arrêt, c'est-à-dire un point d'arrêt qui est dans la matérialisation du discours, la matérialisation des désirs, et dans une volonté quand même de toujours rationaliser le dialogue. Ce qui fait que c'est quand même toujours plus ennuyeux avec des étudiants de lire un dialogue de Platon qu'une vraie pièce de théâtre, bien souvent. Et je ne dis pas ça pour critiquer Platon, il faut que ce soit dans un registre différent. Mais il y a quand même l'idée, à mon sens, que Platon retient sa théâtralité et qu'il y a une perte dans cette retenue. Il y a quelque chose qui est perdu et que Platon lui-même, des fois, situe, arrive à formuler, mais surtout rejette. Et c'est pour ça que j'essaie de faire jouer le théâtre contre les dialogues de Platon. Dans le livre, le premier chapitre, c'est une étude ou une interprétation des dialogues de Platon. Puis après, je m'en libère pour parler de théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est justement l'art qui montre que la vérité ne se limite jamais à des essences stables, ne se limite jamais à quelque chose qui est et qui est stable dans son être. La vérité, c'est toujours des possibilités, et des possibilités matérielles. Et le problème de la matière, c'est qu'elle peut changer, c'est qu'elle peut se corrompre, c'est qu'elle peut susciter des désirs, c'est qu'elle peut susciter des désirs imprévisibles. Et ma position philosophique, si j'ose dire, avec tout ça, c'est de dire que la vérité, elle est structurée par les désirs, elle est structurée par le possible. Elle n'est pas limitée à ce qui est. Elle est la vérité, c'est ce qui peut être aussi. Ça fait partie de la vérité. Et ça, c'est ce que montre le théâtre.
Toute une partie du théâtre, en effet, fait son miel de ces jeux, parce que ce sont des jeux dans tous les sens du terme, entre les désirs et les possibilités. Vous évoquez dans votre livre la pièce de Molière qui s'appelle Amphitryon. On va en entendre un extrait tout de suite parce que c'est un régal à l'écoute aussi. Peut-être présentez-nous la pièce en deux mots. Cette fois-ci, les désirs et les possibles tournent autour de la question de l'identité.
Oui, alors cette pièce un peu compliquée à présenter, c'est une pièce qui est à l'origine de Plaute, qui a été reprise par un autre auteur au XVIIe siècle qui s'appelait Rotrou, qui a écrit une pièce qui s'appelait Les Sosies. Donc c'est un mythe qui a été déjà avant Molière beaucoup réinvesti. Donc Molière a fait sa propre version parce que c'était des thématiques qui l'intéressaient forcément. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'Amphitryon, qui est un général et qui revient chez lui après une grande victoire militaire et qui doit se réjouir ou envisage de passer la nuit avec sa femme Alcmène, qui est très belle et très désirable. Et il est devancé par son valet Sosie.
Qui s'appelle Sosie.
Qui s'appelle Sosie, et c'est ce qui a donné le nom, le mot Sosie. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et ils ont été eux-mêmes devancés par deux dieux, Jupiter et Mercure. Jupiter a fait ce qu'aime bien faire Jupiter, il a pris l'apparence d'Amphitryon pour passer la nuit à sa place avec Alcmène. Et donc il passe une nuit, qu'on devine à la lecture de la pièce, une nuit mémorable avec Alcmène, une nuit que d'ailleurs il s'ingénie à faire durer plus longtemps pour
Parce qu'il a tous les pouvoirs, donc...
Voilà, pour optimiser le plaisir et la jouissance de cette nuit. Pendant ce temps, Mercure a pris l'apparence de Sosie, donc le valet d'Amphitryon, et attend devant la maison. Et il y a cette scène qui est sans doute la plus célèbre de la pièce, où Sosie, donc le vrai Sosie, rentre chez lui pour annoncer la victoire à Alcmène, et Sosie tombe sur lui-même. Comme si on rentrait chez soi et qu'on tombait sur son canapé, dans son canapé, sur son propre double, en train de regarder la télé à notre place. Et c'est ce qui arrive à Sosie, il tombe sur lui-même, alors au début il comprend pas que c'est lui, et il comprend encore moins que c'est un dieu qui a pris son identité, il a pris son apparence physique, il a pris sa place. Voilà.
Ton nom était Sosie, à ce que tu disais. Il est vrai. Jusqu'ici, j'ai cru la chose claire, mais ton bâton sur cette affaire a fait voir que je m'abusais.
C'est moi qui suis Sosie. Et tout Thèbes l'avoue, Amphitryon jamais n'en eut d'autre que moi.
Toi, Sosie?
Oui, Sosie. Et si quelqu'un s'y joue, il peut bien prendre garde à soi.
Oh ciel, me faut-il ainsi renoncer à moi-même et par un imposteur me voir voler mon nom? Que son bonheur est extrême de ce que je sois poltron sans cela par l'amour.
Entre tes dents, je pense, tu murmures je ne sais quoi.
Non. Mais au nom des dieux, donne-moi la licence de parler un moment à toi.
Pas.
Mais promets-moi de grâce que les coups n'en seront point. Signons une trêve.
Passe, va, je t'accorde ce point.
Qui te jette? Dis-moi, dans cette fantaisie, que te reviendra-t-il de me voler mon nom? Et peux-tu faire enfin, quand tu serais démon, que je ne sois pas moi, que je ne sois Sosie?
Comment tu peux?
Tout doux, nous avons fait très beaucoup. Quoi? Pandare, imposteur, coquin? Des injures dimentant que tu voudras, ce sont de légères blessures et je ne m'en fâche pas.
Tu te dis,
oui, quelques contes frivoles. Bon, je romps notre trêve et reprends ma parole. Je ne puis m'anéantir pour toi et souffrir un discours si loin de l'apparence. Être ce que je suis est-il en ta puissance et puis-je cesser d'être moi? S'avisa-t-on jamais d'une chose pareille et peut-on démentir? Sont indices pressants, rêvais-je? Est-ce que je sommeille? Ai-je l'esprit troublé par des transports puissants? Ne songe pas bien que je veille, ne suis-je pas dans mon bon sang? Mon maître Amphitryon ne m'a-t-il pas commis à venir en ces lieux vers Alcmène, sa femme? Ne lui dois-je pas faire en lui vantant sa flamme un récit de ses faits contre nos ennemis? Ne suis-je pas du port arrivé tout à l'heure? Ne tiens-je pas une lanterne en main? Ne te trouvais-je pas devant notre demeure? Ne t'y parlais-je pas d'un esprit tout humain? Ne te tiens-tu pas fort de ma poltronnerie pour m'empêcher d'entrer chez nous? N'as-tu pas sur mon dos exercé ta furie? Ne m'as-tu pas roué de coups? Ah, tout ceci n'est que trop véritable et plutôt au ciel le fut-il moins. Cesse donc d'insulter au sort d'un misérable et laisse, à mon devoir, s'acquitter de ses soins.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et la tirade de Sosie, qui porte bien son nom dans la pièce Amphitryon de Molière. Nous parlons de philosophie du théâtre aujourd'hui, où l'autre scène, c'est le titre du livre du philosophe Mathieu Aumessard, qui est avec nous en studio aujourd'hui pour parler de philosophie du théâtre. Alors cet extrait est formidable, c'est Jean-Paul Rossillon qui joue le rôle de Mercure, parce que même à l'écoute, on s'y perd, c'est-à-dire que Mercure s'est fait passer pour Sosie et Sosie dit « mais en fait, vous êtes moi et donc moi qui suis-je ?» Et comme il s'appelle Sosie et que depuis, Sosie est passé dans la langue courante, on parle d'un Sosie, c'est vrai que c'est assez perturbant à l'écoute.
Oui, exactement. Et on peut noter tout le jeu sur le pronom « moi ». Il faut prendre garde à soi et « dis-moi ». Alors « dis-moi », c'est...
Qui parle-t-il,
oui. « Dis-moi » à son « lui », enfin à son « moi », à son « double ». Donc Molière se délecte de toutes les possibilités déjà verbales qu'autorise ce dédoublement de personnalité. Alors évidemment, les mises en scène de ce spectacle sont confrontées à une difficulté. Comment faire exister ces deux doubles? En fait, ça joue sans doute sur la convention, c'est-à-dire qu'ils ne se ressemblent pas vraiment, les deux comédiens qui incarnent Sosie et Mercure, mais ils sont peut-être habillés pareil. Et puis voilà, c'est le jeu fait exister cette possibilité du double qu'on rencontre et qui serait nous-mêmes, ou qui serait, là en l'occurrence, Sosie. Alors, ce qu'on peut noter sur cette réplique, et je vous remercie de l'avoir passée, parce qu'elle est pleine de signification, pleine d'implications philosophiques, c'est d'abord la présence des coups. Finalement, l'arrière-plan de toute cette scène, c'est que Sosie peut dire tout ce qu'il veut, il se fait bastonner par Mercure, et Mercure est surpuissant. Mercure, c'est un dieu. Donc il a forcément tort. Alors ce qui est intéressant, c'est que Mercure accepte de discuter avec lui pour lui laisser la possibilité de se défendre, de réclamer son identité, mais à la fin, on sait de toute façon que c'est Mercure qui aura raison et que Sosie aura perdu son identité. Mais ce qui m'a le plus intéressé dans cette réplique, dans cette pièce, mais surtout dans cette scène, c'est qu'on peut comparer de très près tout ce que dit ici Sosie à ce que dit un philosophe, Descartes, dans les Méditations métaphysiques. Alors, j'explique rapidement. Dans les méditations métaphysiques, le passage le plus célèbre des méditations métaphysiques, c'est là où Descartes dit « je pense, je suis ». C'est la certitude la plus inébranlable qui soit. Et même un dieu trompeur ou un malin génie ne pourrait pas me tromper là-dessus. Le dieu trompeur ou le malin génie dans les méditations métaphysiques de Descartes, qui ont été publiées 30 ans à peu près avant cette pièce, c'est l'instrument du doute radical de Descartes. C'est ce qui permet de douter des vérités les plus évidentes, les vérités mathématiques. Si ça se trouve, je suis trompé par un malin génie au sein même de mon esprit par des sur les vérités mathématiques, donc par ce malin génie qui pourrait manipuler mon sens de la vérité jusque dans ses fondements. Et Descartes, triomphant, dit « même si le malin génie me trompe, il ne pourra jamais me tromper sur le fait que je pense et que je suis. »
Que je suis en train de penser qu'il me trompe, donc je pense, donc je suis.
Voilà. Donc c'est le fameux cogito ergo sum, et là-dessus c'est un point de certitude inébranlable, sur lequel le malin génie n'a aucune prise, ou le dieu trompeur, comme dit Descartes. Alors ce qui est tout à fait étonnant chez Molière, c'est qu'il reprend exactement la même structure. On a un dieu trompeur qui veut faire douter Sosie des vérités qui lui semblent les plus évidentes, y compris sur sa propre identité. Or, ce dont on s'aperçoit dans la pièce de Molière, en voyant cette scène sur la scène, in concreto, c'est que dans cette matérialité-là, en fait, c'est le dieu trompeur qui emporte tout. Et que quand Sosie dit « Comment pourrais-tu faire quand tu serais démon que je ne sois pas moi ?» Il dit ça dans la réplique qu'on vient d'entendre. « Comment pourrais-tu faire quand tu serais démon que je ne sois pas moi ?» Il reprend exactement l'argument cartésien. C'est-à-dire, tu as beau être un dieu trompeur, tu as beau être tout puissant, je reste quelque chose. Mais ce qui est très beau dans la pièce de Molière, c'est que ça apparaît justement comme un reste dérisoire une fois qu'on a tout perdu. C'est-à-dire, il a beau être lui-même, il a beau dire cogito ergo sum si on veut, mais il n'a plus son nom, il n'a plus sa position sociale.
Mais il pense.
Il n'a plus sa
mais
femme, il a voilà. Mais
on retrouve le Hamlet d'ailleurs, entre être ou ne pas être, bah lui il l'est, mais
oui,
il ne peut pas en dire plus.
Il a cet être, mais il s'aperçoit que ça, finalement, ça ne correspond pas à grand-chose. Ouais. Que c'est un pauvre reste par rapport à tout ce que lui permettrait son inscription dans l'ordre symbolique de la société, sa position, son rôle de serviteur, etc. Tout ça,
sujet.
Il l'a perdu. Ouais. Il a perdu tout ce qui fait l'épaisseur d'une subjectivité. Et pour moi, ça permet de révéler théâtralement et très concrètement à quel point le cogito de Descartes est finalement pas creux, parce que dans la démarche de Descartes, il a plein d'autres implications, mais pris en lui-même, ce moment de triomphe philosophique chez Descartes, mis sur une scène de théâtre, en fait, apparaît comme une, même pas comme une victoire, mais comme une espèce de combat d'arrière-garde une fois qu'on a tout perdu. Et ça, il me semble que c'est un éclairage vraiment très intéressant. En même temps, cet élément-là n'était pas aussi présent dans les versions précédentes de cette pièce chez les auteurs que j'ai cités précédemment. Et chez Molière, il y a quand même l'idée d'une souveraineté de Sosie vis-à-vis de Mercure. Il a quand même Sosie, il a de l'esprit, il a quand même du répondant, et il a du courage parce qu'il veut quand même s'affirmer contre Mercure. Un peu comme le cogito de Descartes face au malin génie. Donc, il reprend quand même un petit peu l'idée de Descartes. On est déjà dans cette modernité du sujet qui s'affirme contre toutes les puissances qui pourraient l'amener à douter de lui-même. Et on trouve ça dans d'autres pièces de Molière. Par exemple, Don Juan face à la statue du commandeur, ou face au ciel, il y a quand même aussi cette idée d'une souveraineté du sujet. Mais elle est drôlement problématisée quand même, et très matériellement, dans la scène d'Amphitryon, par là encore une fois, la matérialité de la situation qui met la philosophie à l'épreuve de la scène.
Mais y a-t-il un philosophe qui peut résister à cette mise à l'épreuve de la scène? Parce que Platon, on a compris que ça fonctionnait pas, Descartes non plus. Finalement, si on met le philosophe à l'épreuve de la matérialité de la scène, c'est toujours le théâtre qui gagnera quelque part.
Oui, alors j'ai longuement cherché.
Et donc?
Donc, oui, il y a quand même, je pense, des philosophes qui résisteraient plus. Il y a des grands philosophes, et y compris des grands philosophes du théâtre. Hegel, par exemple, dans l'esthétique, qui parle beaucoup de théâtre et qui l'a envisagé d'un point de vue beaucoup plus positif, je pense résisterait beaucoup plus à l'épreuve de la scène.
C'est intéressant parce que c'est pourtant un philosophe très systématique et dialectique, qui n'est pas dans la matérialité de l'existence. Enfin, le terme apparaît beaucoup, mais toujours ressaisi par la pensée.
Oui, mais justement, dans l'esthétique, bon, l'esthétique, c'est une réflexion sur l'art, et l'art, pour Hegel, c'est produire une matière spiritualisée, c'est-à-dire projeter dans des objets matériels, dans des œuvres matérielles, un contenu spirituel très riche. Avec l'idée qu'à la fin, c'est toujours l'esprit qui doit gagner, bien sûr. Mais pour Hegel, le sommet de l'art, la forme d'art ultime dans ce qu'il appelle son système des arts, c'est quand même la poésie dramatique, le théâtre. Parce que c'est là qu'on a le support spirituel le plus puissant, à savoir l'être humain lui-même en chair et en os, et surtout doté de paroles. Parce que la parole, c'est le véhicule privilégié de l'esprit. Et donc Hegel accorde une grande importance au théâtre, justement parce qu'il permet de matérialiser l'esprit, et de le matérialiser en plus de façon concentrée, de façon en plus totalisante, parce qu'une pièce de théâtre, c'est toujours une totalité organique qui commence, qui a un milieu et puis qui a une fin, donc qui donne une sorte de vision totale du réel. Donc chez Hegel, on trouve un philosophe qui a joué le jeu du théâtre et qui a réussi à quand même à l'intégrer à sa pensée.
Mais pour mieux le dépasser.
Mais évidemment, à la fin, c'est pour le dépasser, c'est pour proclamer la mort de l'art, qui d'ailleurs se réalise pour Hegel dans le théâtre, dans la comédie, dans la dérision de la comédie, c'est le dernier souffle de l'art, d'une certaine façon. Donc chez Hegel, il y a évidemment le fait que l'art doit être dépassé par la philosophie, par la religion, que l'art finit par mourir. Donc je finirai aussi par conclure, non pas que l'art n'est pas à la hauteur de l'esprit, mais peut-être que l'esprit hegelien n'a pas été tout à fait à la hauteur de l'art. Mais bon, ce serait peut-être un petit peu long de le démontrer contre Hegel.
Mais donc, en tout cas, ça voudrait dire que ce que le théâtre propose tel que vous le pensez, en tout cas, c'est une forme de complétude peut-être de notre expérience réelle. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tous les aspects de l'existence qui sont privilégiés tantôt l'un par un philosophe, tantôt l'autre par un poète, etc., il y a une forme de presque de totalité, mais dans ce qui sera de plus incarné, mise en œuvre sur scène dans le théâtre. Et je dis sur scène, ça peut être aussi en dehors de la scène. C'est l'idée même de théâtre ici qui vous paraît particulièrement pertinente pour ressaisir ce qu'est le réel.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le propre d'une représentation théâtrale, c'est dans sa structure même d'impliquer une idée de totalité. Alors ça, c'est aussi quelque chose que dit Hegel. Aristote le disait déjà dans une affirmation apparemment triviale, une tragédie a toujours un début, un milieu et une fin. Bon, mais finalement, il y a assez peu de choses dans la vie qui ont vraiment un début, un milieu et une fin.
Cette émission, on a tous les trois. Voilà, enfin, on verra, on n'est pas encore sûr de la fin.
Une émission de radio peut-être rentrer dans ce cadre-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le théâtre, non seulement un début, un milieu et une fin, mais en général, le déroulement des choses est très écrit. Donc, on y condense beaucoup de significations. Alors, il peut y avoir de l'improvisation aussi, bien sûr, au théâtre. Mais quand c'est écrit, un spectacle, quand il est écrit, condense dans un temps limité beaucoup, beaucoup de sens. Et puis, il y a la présence réelle des comédiens. Et puis, c'est un art collectif. Et donc, tout ça fait qu'il y a une dimension englobante. Et puis, il y a la présence du public qui a un regard extérieur. Et un regard extérieur qui cultive l'idée qu'on pourrait regarder le monde avec un regard de surplomb. Mmh. Et ça participe non seulement à un regard théorique, mais à un regard de jouissance. Comme les dieux qui contempleraient la condition humaine de l'extérieur. Position divine, et en même temps, on est présent devant le spectacle théâtral, par définition. Cette position divine pourrait s'appliquer au public, elle pourrait s'appliquer aussi au metteur en scène, qui tire un peu les ficelles du spectacle, elle pourrait s'appliquer à l'auteur de la pièce, qui lui aussi manipule les personnages. On pourrait penser à des auteurs comme Pirandello, etc., sur ce genre de thème. Mais ça aussi, ça participe de l'idée de totalisation. Si le théâtre évoque si facilement l'idée d'une scène du réel, c'est non seulement parce qu'il y a une totalisation du temps, c'est aussi parce qu'il y a une écriture très condensée, c'est parce qu'il y a la présence réelle des comédiens, et puis c'est parce qu'il y a cette position extérieure, surplombante, celle qu'on pourrait appeler avec Lacan la position de l'autre avec un grand A, celui qui se tient à l'extérieur et qui y a accès au sens profond des choses, pour en faire vite, qui serait aussi celle du metteur en scène, de l'auteur. Voilà ce qui fait que l'image de l'autre scène favorise aussi celle du théâtre du monde. Et là, je reviens à Shakespeare. Le théâtre est le monde et le monde est un théâtre. Le théâtre fournit la meilleure métaphore, la plus efficace pour décrire la réalité dans son ensemble. Et d'une certaine manière, même à l'époque du cinéma et des séries télévisées dont vous parliez tout à l'heure, le théâtre reste indépassable pour faire ça, à mon avis.
Vous terminez votre ouvrage avec un chapitre conclusif qui s'appelle « Le pantin merveilleux ». Vous vous intéressez au rôle du comédien qui, par son corps, incarne un personnage et qui, en même temps, eh bien, incarne lui-même. C'est-à-dire le paradoxe du comédien, sans paraphraser Diderot, c'est bien quand même celui qui, à la fois, est présent sur scène à lui-même, par lui-même, et en même temps incarne quelqu'un d'autre. Et vous prenez un exemple, vous parliez de jouissance du spectateur, on va en proposer un moment pour nos auditeurs, un moment de théâtre sans doute indépassable, hein, vous nous direz. Vous prenez l'exemple de Cyrano de Bergerac, ce comédien qui semble écrire lui-même son texte et qui, cette fois-ci, précisément parle de son corps, ou encore plus précisément de son nez. Je vous propose qu'on écoute ensemble cette fameuse tirade du nez. Ça dure 3 minutes 20. Mm-hmm. On a rarement l'occasion d'entendre en entier. Alors la voici, récitée par Jean-Pierre.
Vous avez un nez un nez très grand, très,
c'est tout.
Mais
ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire Oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il devrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fasse. Pédant. L'animal seul, monsieur Caristophe à la belle époque, oh, Pénéphato, Camélos, dut avoir sur le front de chair sur ton dos. Cavalier, quoi, l'ami Secro est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut naître magistral t'enrhumé tout entier. Excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard,
Herdé, et tiens, nez. Non, non, c'est quelque navet géant ou bien quelque melon.
Militaire, pointé contre cavalerie, pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrrha, mon insanglot. Nous voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie.
Il en rougit, le trait.
Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une quart. Je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.
Fantastique, Jean-Pierre. C'était en 1966, la tirade du nez de Cyrano de Bergerac, dans la pièce d'Edmond Rostand. Alors vous dites, Mathieu Messer, dans votre livre, que déjà il faut garder en tête que cette tirade est prononcée, non pas sur scène, mais qu'à ce moment-là, le comédien s'avance dans le parterre, déjà qu'il quitte la scène, et ça c'est très important, non?
Oui, en fait, cette scène, c'est au départ une scène de théâtre dans le théâtre, puisque le premier acte de Cyrano se passe à l'hôtel de Bourgogne et lors de la représentation d'une tragédie, et Cyrano entre pour chasser, un peu comme Platon finalement, il veut chasser le comédien, qu'il trouve trop mauvais. C'est le tragédien Montfleury, je crois, et il veut le chasser de la scène, et du coup, il fait lui-même une scène concurrente au parterre, donc sur ce qu'on pourrait appeler la scène du réel. Il est dans le réel. Alors, ce qui est tout à fait incroyable, c'est qu'en même temps, il va faire la scène du comédien ultime. Du comédien qui est à la fois capable de se battre, puisqu'il va se battre à la fin, et de sortir un texte en se battant. Un texte qui est en plus une répartie dont on pourrait tous rêver. Un texte littéraire incroyable, extrêmement dense. Donc, il va réaliser cette réplique qui est à juste titre. Enfin, quand on l'entend, c'est toujours un plaisir.
Et qui ne parle que de son nez.
Et qui ne parle que de son nez, donc il se retourne en plus contre lui-même. Et cette réplique, c'est un monument, comme il le dit de son propre nez. C'est vraiment un monument dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ici, on voit la capacité du texte théâtral à condenser les plus profondes préoccupations de l'être humain. Et c'est un texte extrêmement écrit. Mais on voit ici, c'est aussi un texte extrêmement théâtral parce qu'il est ancré dans la matérialité d'une situation. Dans la matérialité du nez de Cyrano, de son physique, puisque c'est une insulte sur son physique, et dans la matérialité d'une situation de violence, puisqu'il a été provoqué
en duel. Il a été provoqué par le vicomte de Valvert, qui lui a sorti une insulte très courte, un peu courte jeune homme, sur son physique. Et là, Cyrano fait ce qu'on attend finalement de tout ce genre de situation, c'est il trouve une répartie. Et non seulement il trouve une répartie, mais il va trouver une répartie surabondante, qui est une sorte d'exaltation de la puissance de l'esprit, de l'inspiration. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. Oh Dieu, c'est cette inspiration qui lui descend comme ça, qui en fait vient de l'auteur de la pièce. Mais Cyrano est censé trouver en lui-même. C'est toute l'ironie de ce passage. Alors pourquoi cette réplique est tellement fantasmatique? D'abord parce qu'elle est censée désamorcer la violence, ce qui est quand même un des grands enjeux de la civilisation. Il y a une situation de violence, l'autre veut le provoquer en duel, et Cyrano essaie de la désamorcer par le langage. Alors on peut noter, le principe de la réplique, il fait varier les tons. Il commence par le ton agressif. Il aurait fallu sur le champ qu'on me l'amputasse. Ensuite, il passe au ton amical. Donc il désamorce l'agressivité pour passer au ton amical, ensuite au ton descriptif. Donc il essaye de jouer ce jeu, de désamorcer la violence pour la ramener à la civilisation. Ça, c'est quand même assez magnifique. Donc, pour faire bref, Cyrano, c'est l'incarnation du comédien fantasmatique. Et d'ailleurs, cette pièce a été écrite vraiment pour un comédien, pour qu'il donne l'étendue de son talent. Et ce serait le comédien qui se sert lui-même son texte. C'est ce qu'il dit à la fin, ces folles plaisanteries, je me les sers à moi-même. J'ai pas besoin d'un auteur, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise comment je devrais m'insulter. Je produis mon texte, c'est le comédien qui produit son texte en se battant, et qui produit un texte complètement fantasmatique. Ce qu'on pourrait juste rajouter pour terminer sur cette réplique, c'est qu'à la fin, on peut quand même se demander qui serait capable, dans la vraie réalité ou dans la réalité qu'on connaît, de sortir une telle réplique.
Gérard Depardieu, on l'imagine assez bien, c'est pour ça qu'il a joué
Oui, il serait capable de jouer la réplique, mais qui serait capable, dans une situation comparable à celle de Cyrano, de sortir une telle réplique et de l'inventer lui-même en temps réel? On peut dire que Cyrano reste un fantasme. Ça reste un fantasme qui ne peut pas exister. Ce qui laisse quand même, disons, un autre degré de lecture possible pour cette réplique si fascinante, mais c'est possible pour un personnage de fiction. C'est possible pour un personnage de théâtre.
On n'est pas à la hauteur de ça, de ce personnage
voilà.
de fiction.
Est-on déceptif. Capable, dans la vie telle que nous la connaissons, d'être à la hauteur d'un tel personnage?
Bien là, on se quittera sur cette question, cette très bonne question qui invite à méditer sur le rôle du théâtre de cette tirade et de nous-mêmes en tant qu'auteurs de notre propre vie. Pouvons-nous écrire des alexandrins en guise de répartie? Je devrais y penser, tiens, pour terminer cette émission, mais l'inspiration me manque. Merci à vous, en tout cas, Mathieu Messer, d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci Adèle.
Je renvoie les auditeurs et je les encourage tous à lire votre livre « L'autre scène, philosophie du théâtre » aux éditions Vrin. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour, chère Géraldine.
Bonjour, chère Adèle. Bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, vous nous parlez aujourd'hui d'architecture et de philosophie.
Oui, c'est le sous-titre de ce livre paru aux éditions Verdier, La Dislocation, livre de Benoît Goetz et préfacé par Jean-Luc Nancy. Et c'est un merveilleux petit livre parce qu'il fait le lien entre espace et pensée, entre choses étendues et choses pensantes, pour reprendre les termes de Descartes, alors même que la philosophie n'apparaît pas beaucoup derrière l'architecture et que les philosophes en parlent eux-mêmes assez peu. Alors comment la pensée est-elle spatiale et inversement, comment l'espace pense? Ce sont les deux questions que l'on peut soulever en lisant ce livre.
Pour les concepteurs de la Villeneuve de Grenoble, l'une des idées maîtresses a été tout d'abord une recherche de résolution globale des problèmes urbains. C'est-à-dire qu'on a voulu faire ni un pastiche de ville ancienne, ni un grand ensemble type banlieue parisienne, mais une sorte de tout cohérent dans lequel chaque élément était en relation étroite avec tous les autres. C'est ce qui nous a conduit au principe du quartier linéaire, principe qui consiste à créer une sorte de bande de construction sinueuse, non orthogonale, pour une plus grande fantaisie dans les perspectives et dans la perception du quartier.
Alors ça, c'est pas un extrait du livre, c'est un extrait de film.
Exactement, c'est un extrait de reportage diffusé à la télé et réalisé par Eric Rohmer. Alors j'essaierai de mettre le lien sur le site, je ne sais pas si on peut le voir en entier, mais c'est quand même une pépite, donc c'est sur les villes nouvelles. Et voilà, il permet de poser cette question, où est-on quand on est là? Alors on pourrait voir l'espace comme une forme de condamnation première, de chute originelle. On ne naît pas n'importe où, on ne grandit pas dans n'importe quelle place, on ne vit pas avec n'importe quelle personne. L'importance du lieu, de la place et de son partage avec autrui indique indique l'importance de premier ordre de l'architecture, le fait qu'elle soit au fondement de notre existence. Mais le problème, c'est qu'on n'interroge plus vraiment son existence à elle. L'habitude de l'architecture occulte le fait qu'on n'habite jamais dehors, un dehors, mais que l'on est toujours là avec l'autre, que l'on est toujours en un point, à un endroit. Autrement dit, l'habitude de l'architecture, ce que Benoît Goetz appelle la dislocation, soit la perte du lieu, nous conduit à ce paradoxe que l'on est pourtant toujours localisé. Alors comment interroger ce lieu dans lequel on est, mais que l'on ne voit plus, et comment l'interroger pour l'habiter, pour ne pas seulement occuper de l'espace, mais bien l'occuper, comme le dirait Heidegger, pour être là. Rastaman vibration. Adèle, je suis sûre que vous allez me poser la question, pourquoi du Bob Marley ?
Mais non, parce que Bob Marley, l'architecture, ça coule de source. Non, évidemment, je ne vois pas le lien.
Eh bien, parce qu'à côté d'Heidegger, c'est une autre référence de Benoît Goetz. Plus précisément, c'est sa tournée européenne de 1978 appelée « Babylon by Bus ». Car les deux termes y sont importants pour Benoît Goetz. D'abord parce que le bus révèle cette idée de parcours et de lien, mais aussi d'arrêt dans des villes, dans des places toutes différentes. Et ensuite parce que Babylone, ou la ville perdue, souligne le fait qu'aucune ville ne sera plus monumentale. Pour penser l'espace de manière à ce que cet espace soit le mieux à même pour chacun d'exister et de penser, l'idée est donc ici de se pencher sur ces lieux de passage, ces lieux ordinaires, ces lieux impensés justement. Et ce sont donc toutes ces villes nouvelles, toutes les villes que l'on traverse, tous les espaces quotidiens et urbains qui sont présents ici. Mais comment donc penser à un lieu que l'on ne voit plus, que l'on ne pense plus, de manière à ce que l'existence y déroule bien, mais sans pour autant que ce lieu soit rendu visible, monumental, mais reste inaperçu. Voilà, c'est ça l'enjeu. Il s'agit de penser à un lieu impensé qui nous permette de penser sans que l'on y pense.
Ma solution, c'est de reprendre le problème à froid, de regarder comment sont les choses, où sont les événements, mettre de l'ordre en quelque sorte, et d'obtenir par un examen doctrinal suffisamment sain et vrai, n'est-ce pas, d'obtenir la remise en ordre de Paris et le spectacle d'un Paris tout à fait possible, tel que par exemple celui-ci, qui montre le Paris possible d'un Paris rentré chez lui.
Il y a un Paris, mais ça oblige à des destructions, ce plan.
Non, toute la vie n'est faite que de destruction et de reconstruction, et particulièrement la vie des villes.
Tout le défi est ainsi de remodeler nos espaces pour qu'ils soient plus que des espaces fonctionnels mais chargés, pratiques pour nos existences mais sans existence. C'est ce que voulait entreprendre Le Corbusier, tout aussi présent dans ce livre qu'Heidegger, quand il parle ici de Paris, mais c'est aussi ce qu'il évoque dans un article de 1947 sur l'espace indicible, où il s'agit de bâtir des machines à émouvoir, mais pas des machines d'émotion imposantes, mais des machines, je cite, « doux ». Rien n'émane sinon une certaine qualité d'éveil, de lucidité, d'ouverture de la conscience.
Le point commun entre l'architecture, Heidegger, Bob Marley et Le Corbusier, c'est donc ce livre.
C'est ce livre de Benoît Goetz, préfacé par Jean-Luc Nancy, qui s'appelle « La dislocation, architecture et philosophie » et que l'on trouve aux éditions Verdier.
Et on mettra les références en ligne sur le site du Journal de la Philo, où vous pourrez également réécouter la chronique de Géraldine Mosna-Savoie. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Marianne Chassor, David Pargamin, Maud Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine avec Aujourd'hui en compagnie de Milena Aelig, et Yanis Judad qui était à la prise de son. On se retrouve la semaine prochaine pour une série sur le philosophe Confucius. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir cette série d'émissions qui vous permettra de faire connaissance avec ce penseur chinois dont on parle peu mais qu'on ne lit presque jamais. Eh bien, la semaine prochaine, nous remédierons à ce mal grâce à quatre invités qui viendront vous parler de quatre angles différents de ce penseur. D'ici là, pour écouter cette émission sur la philosophie du théâtre ainsi que celle de cette semaine sur Jacques Demy, c'est très simple, vous vous rendez en ligne sur le site de France Culture, pardon, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter ces émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et c'est également vrai pour le Journal de la Philo de Géraldine Mosna-Savoie. Sur France Culture à midi, ce sera la grande table d'Olivia Jesper, mais il est 11h. Et 11h sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Culture Monde, présenté par Florian Delorme.